Tristan Bernard, Amants et voleurs, un oisif. François Manstein, qui travaillait comme électricien dans une grande usine de puteaux, vint un soir au terne au café Balazan relancer son cousin Albert qui lui devait 50 francs. « Mon vieux, lui dit Albert, excuse-moi. Oui, je voulais te porter ça tous ces jours, mais je t'affirme que demain, enfin, ou après-demain, ou plus tard, tu seras réglé. Je signerai avec une maison de la rue du Mail qui vend de la coutellerie fine. Et je commence la semaine prochaine une tournée dans l'Est. Oh, ben, tu signes toujours des traités, dit François. Et finalement, tu n'arrives à rien. Tu te dis, voyageur de commerce, tu ne quittes pas Paris. Au fond, je sais le métier que tu fais. Tu sais quoi ? Je sais, dit François. Tu vis avec une femme du moulin qui s'appelle Irma. Voilà ton métier. Albert, assis à côté de François, sur sa banquette du soir, de cuir, ne répondit rien. C'était un homme de forte carrure, à la mâchoire lourde, à la moustache épaisse, au visage grêle. Il avait des yeux noirs, rêveurs, et rongeait minutieusement ses ongles. « C'est assez triste pour toute la famille, ajouta François. « Va où ça t'amenait d'être si paresseux ?» Les yeux de l'homme grêle se mouillèrent. « Oh, je ne souhaite à personne de mener l'existence que je mène, » dit-il en soupirant. Il s'attendrit encore et embrassa son cousin. « Mon pauvre vieux, tu m'aimes bien, toi. Oh, je sais que tu m'aimes bien. Je comprends les problèmes que tu me fais, les reproches que tu me fais. Écoute, mon François, permets-moi de te conseiller. Tu as une bonne place, garde-la, plus que tu pourras. C'est une vilaine affaire que d'être dans l'ennui. Il n'y a rien au monde d'être si triste que d'avoir besoin d'une femme. C'est vrai que je suis toujours avec Irma. Mais je ne vis pas d'elle, oh non, je te le promets. Ceux qui t'ont dit ça ont fait une calomnie. Il y a 6 mois que nous sommes ensemble. Tu ne m'as pas prêté 300 francs, qu'est-ce que je dis ? Même 300 francs, non, pas 200 francs. Tu ne connais pas les femmes. Tu as fait les femmes comme tout le monde. Mais pour savoir ce que c'est que la femme, ce que ça veut... Il faut avoir eu besoin d'elles. Quand elles ne sont pas vraiment amoureuses, c'est à l'argent qu'elles tiennent le plus. Elles y tiennent comme des bêtes, aveuglément. Elles sont aussi attachées à une pièce de 20 sous qu'à un billet de 100 francs. Oh, quand on monte leur escalier et quand on se dit qu'on va leur faire... On va leur tirer 100 sous. Si l'on prend un air triste en entrant, elle voit tout de suite qu'on va les taper. Mais il vaut mieux y aller avec un air gai ou indifférent. Et placer sa demande sans avoir l'air de rien au bon moment. Mais la plupart du temps, on la place mal. Et s'il y a de plus curieux, c'est que bien souvent, on va leur demander quelque chose, non pas pour une vraie nécessité, mais pour faire le monsieur chic avec un camarade qu'on a invité à dîner. On s'humilie ici pour être considéré là. Ah, le jour où je pourrais lui envoyer à travers la figure tout l'argent qu'elle m'a prêté. Albert se tut quelques instants. Son cousin François voulut payer la consommation. Albert l'arrêta. Oh, ne t'en va pas. J'ai encore quelque chose à te raconter. Mon vieux cousin François, tu es mon ami. Je te connais depuis si longtemps. Je vais te dire ce que je n'ai jamais dit à personne. Il y a 2 mois, voyant que rien ne pourrait plus durer, j'ai eu une idée effroyable. J'ai eu l'idée de faire un coup. Attends, mon vieux François, tu vas voir la suite. Un soir, Kurma refuse de me prêter 30 francs. J'avais absolument besoin de prêter à un camarade de régiment. Je me dis, ça ne peut pas durer. J'avais souffert. J'avais souvent aussi pensé à une femme du moulin, une nommée Julie. Elle demeurait rue Blanche. Je n'avais jamais été chez elle. Mais je la connaissais un peu. Lui avoir parlé au moulin. Je savais simplement par une de ses amies qu'elle avait des économies dans sa chambre, dans un petit secrétaire. J'aurais voulu lui prendre la peine de me renseigner davantage, voir si elle habitait seule, si elle n'avait pas des voisins trop proches. Mais je me suis souvent demandé, en lisant l'histoire des crimes, pourquoi les criminels prenaient si peu de précautions? La vérité est qu'ils y songent, mais qu'ils n'ont pas le temps. C'est bien rare qu'ils choisissent tranquillement leur jour. Ils sont appelés par l'occasion ou par la nécessité. Ce soir-là, avant de me rendre au moulin, j'ai fait un bon dîner chez le cardier, où je mangeais à crédit. J'ai essayé de me saouler, mais j'ai réussi difficilement. J'ai mal au cœur avant d'être saoul. Et quand j'ai mal au cœur, impossible de continuer à boire. Mais quand j'arrive au moulin, je suis près de 20 minutes à chercher Julie. Je suis allé m'en retourner, plutôt content, je dois le dire. J'avais pris à peu près mon parti d'avouer carrément à mon camarade que je ne pouvais pas lui donner ses 30 francs. Et enfin, j'aperçois Julie à une table. C'était une femme blonde, mince, le front mat. Je ne voulais pas aller m'asseoir auprès d'elle pour ne pas qu'un jour on ouvre ensemble. Enfin, elle quitte la table. Je vais à elle sans me presser. Et je lui dis, Julie, veux-tu que je rentre avec toi? Elle me répond, oh, mais je veux bien. Alors je lui dis que je la retrouverai dehors, parce qu'une certaine personne ne devait pas savoir que nous étions sortis ensemble. Oh oui, je sais qu'elle me dit, Irma. Je vais emporter de chez moi mon couteau, je m'étais procuré chez un quincaillier une pince de mousse moyenne taille pour forcer le secrétaire. J'avais mis ces outils dans la poche intérieure de mon pardessus. Quand j'y pense, je suis encore tout étonné que j'aie pu faire ce préparatif sans la moindre émotion. Mais j'étais soutenu par l'idée que rien n'aboutirait, que je ne réussirais pas, et que ça m'avait donné pas grande importance d'ailleurs. Seulement, ça me fait tout de même quelque chose quand je suis parti bras dessous avec Julie jusqu'à la rue Blanche. Je m'étais figuré qu'il fallait lui raconter des histoires pour lui expliquer comme quoi l'idée m'était venue tout à coup de rentrer avec elle, sans lui avoir jamais parlé avant. Mais elle ne me demandait rien. Elle trouvait ça tout naturel. Alors j'ai jugé inutile de lui servir des boniments. Alors nous arrivons rue Blanche. Il était 11 heures. C'était encore allumé chez le concierge. Mais personne de la loge ne me regarde passer. Nous traversons la cour. Nous montons au deuxième. J'aurais bien demandé si elle habitait seule, mais je n'osais pas, crainte de lui donner l'éveil. Et il se trouve que, dans l'antichambre, elle me renseigne d'elle-même. « C'est embêtant, vois-tu, j'habite seule. Oh, il faudrait que je me décide à faire coucher une femme de ménage dans l'appartement. Si je suis malade, je suis obligé de traverser le palier et d'aller chôner chez une vieille fille qui habite en face. » Je ne disais rien. Elle prend sa bougie et nous traversons assez vite la salle à manger pour arriver dans sa chambre. La bougie qu'elle venait d'allumer faisait un petit point bleu dans l'obscurité. Elle pose son chandelier sur la cheminée de sa chambre. La flamme grandit et je peux voir le mobilier. Un lit à colonnes, garni de draps gris, muni. Une chambre noire et triste. Je ne pensais plus à rien. Je ne savais pas au juste ce que j'étais venu faire là. Elle me répond d'une voix éteinte. « Des coliques de foie. Oh, que c'est bête, que c'est bête. Justement, d'avoir ça la première fois que tu viens ici. » Je m'étais assis sur une chaise tout à côté de la cheminée, sans mot dire. Et elle répétait « Oh, que c'est bête! Oh, mon Dieu! Oh, mon petit vieux, mon petit vieux! Je te demande pardon! » J'apprends dans mes bras, je l'embrasse et je lui dis « Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien! » Je la câline pendant quelques instants. Mais elle recommence à souffrir. Moi, ça m'affole de voir une femme dans ces états-là. Alors je la porte sur son lit, et ne sachant que faire, je m'en vais à la cuisine, tâcher de préparer des linges. Du temps que j'étais à la cuisine, je l'entends encore crier. Mais son cri avait changé. Maintenant, elle s'était trouvée mal. Je me décide à aller prévenir la vieille demoiselle qui demeurait en face. Je sonne, je ressonne. Cette vieille toupie avait le sommeil dur. De la fenêtre du palier, je vois que la lumière du concierge était éteinte. Que faire? Enfin, la vieille vient m'ouvrir. Elle me parle derrière la chaîne de sûreté. « Madame, c'est la jeune femme d'en face qui est malade. J'y vais. » Elle arrive en jupon, elle examine la malade, elle me dit « Regardez voir dans le placard, il y a une potion qui réussit très bien. Si elle ne se réveille pas, on lui fera passer entre les dents, on la lui fera passer. » Mais la bouteille ne s'ouvrait pas. Et elle se trouvait vide. Nous trouvons dessus l'adresse du pharmacien. Malheureusement, je me souviens que je n'ai plus d'argent. Je raconte une histoire que j'avais oublié mon porte-monnaie chez moi. Très loin. Alors la vieille demoiselle me dit qu'elle n'avait justement pas d'argent non plus. Elle mentait, elle ne voulait pas y aller de sa poche. Alors nous pensons à ouvrir le secrétaire, mais nous ne savions pas où elle mettait la clé. Et comme la vieille ne me voyait pas, je prends alors tout doucement ma pince Monseigneur dans la poche de mon pardessus, je ressors un instant de la chambre, et je reviens en faisant semblant d'avoir trouvé l'outil quelque part dans la cuisine. « Oh, elle ne sera pas contente qu'on lui abîme son secrétaire !» dit la bonne femme. Le pharmacien ne demeurait plus à crédit. « Oh, je crois pas !» dit la bonne femme. Enfin, elle a l'idée de regarder sous le plancher de la cheminée. Sous la petite planchette de la cheminée, et nous trouvons une clé. On ouvre le meuble. Il y avait dans un tiroir un tas de pièces d'or qui pourraient bien faire, 1 000 francs. Je prends un louis que je donne à la vieille femme qui est chargée d'aller chercher le pharmacien. Et durant le temps que je suis tout seul, ça me démangeait de prendre un peu d'argent dans le meuble. Mais je me disais que Julie devrait savoir mon compte, que s'il lui manquait un louis ou deux, elle me soupçonnerait. J'avais été trop chic type avec elle en la soignant pour me faire considérer par elle comme un malfaiteur ou comme un voleur. Et dès que l'eût été mieux, je l'ai confié à la vieille et je suis parti. Et tu l'as revu depuis ? Dit François. Non, non, il s'est passé une chose que je regrette un peu. Quand la vieille est revenue, elle me remet la bouteille et 17 francs sur les 20 francs. Je pense alors, avec de très bonnes intentions, pour pas qu'il soit dit que je lui ai fait payer sa potion, pour pas qu'elle s'en aperçoive, je vais prendre cette monnaie et je lui rapporterai demain en plus la pièce de 20 francs. Avec en plus un petit cadeau. Bon, j'étais de bonne foi, je l'affirme en disant cela. Mais comme j'avais faim en sortant, j'ai été mangé un morceau en prenant sur la monnaie, pas sans rien leur pouvoir recompléter le lendemain. Seulement, j'étais mal avec Irma. Je n'ai rien pu lui demander. Et j'ai eu la flemme de chercher ailleurs. Alors j'ai remis, et finalement, je me suis pas retourné chez Julie. De sorte que je ne sais pas ce qu'elle pense de moi. Je te dis tout ça, continua Albert, pour te montrer que je n'étais pas capable d'être méchant. Bon, pas plus que d'être honnête, répondit sévèrement François. Parti.